dans le Grand Rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et je vous rappelle que nous parlons ce soir de l'avenir de l'opposition ivoirienne après les législatives du 6 mars prochain, alors qu'elle va à ce scrutin divisé. Mais d'abord, décryptage sur le Ghana, direction Accra, pour retrouver notre invité.
Décryptage dans le Grand Rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Levina Ada Mensah, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice exécutive adjointe du WANEP, c'est le West Africa Network for Peace Building à Accra, au Ghana. Le défunt président ghanéen Gerry Rawlings, décédé le 12 novembre dernier à 73 ans, inhumé ce mercredi après 3 jours de deuil national. Comment les Ghanéens portent-ils le deuil de leur ancien chef d'État décédé?
Oui, en fait, c'est une période très triste pour les Ghanéens, puisqu'il représentait pour les Ghanéens beaucoup de choses. C'est effectivement lui qui avait amené au niveau politique les 4e République, donc qui continue toujours. C'est vrai, il y a eu des expériences douloureuses que certains ont subies à cause de lui, mais aussi il y avait beaucoup d'impact positif pour le pays et pour l'Afrique, le continent de l'Afrique. Donc pour nous, les Ghanéens, on pense que vraiment l'Afrique a perdu quelqu'un qui était très bien pour le continent. Il a été mal compris des fois, il n'est pas un être humain, il avait commis aussi des erreurs.
Est-ce que vous faites allusion à certaines critiques qui présentaient Gerry Rawlings, tout au moins son régime, comme autoritaire et répressif?
Effectivement, oui. C'est quelqu'un qui a pris le pouvoir à travers un coup d'État, ce qui n'était pas, c'était contre la Constitution. Donc effectivement, du point de vue, c'était quelque chose qui était malheureux, mais bon, selon certains analystes, il le fallait le faire parce que c'était une période où vraiment les Ghana souffraient beaucoup. Hein. Et au moment où, au niveau économique, au niveau social, il y avait beaucoup de défis à ce niveau-ci. Donc,
dans la lutte contre la corruption, le redressement de l'économie, qu'il a effectivement réussi à remettre sur les rails.
Voilà. En fait, pour moi, ce qui était marquant de lui, c'était vraiment le leadership. C'était un vrai leader, surtout pour les jeunes. Moi, je l'avais connu quand j'étais très petite et je me rappelle de certaines choses. Que quelqu'un qui était vraiment dédié à ce qu'il faisait, quelqu'un qui était très, vraiment triste aussi et de quoi il est faux. Et c'est des atouts que je pense qui sont importants si vraiment on veut aller en avant. Donc, je pense que si vraiment on pourrait pérenniser ce genre de atouts qu'il avait en tant qu'un leader très fort,
c'est ce genre de valeurs.
Je pense que ça va beaucoup nous aider. Oui, effectivement, il y avait des valeurs par rapport, surtout en ce qui concerne le travail. Il était quelqu'un qui était humble aussi. Il est très, très, très humble. Et je pense que c'est vraiment des valeurs qui sont très importantes pour nous.
L'humilité et la simplicité.
Oui.
Qu'est-ce que les Ghanéens doivent aujourd'hui au défunt président Rawlings? Quelles auront été ses plus importantes réalisations? Il a quand même dirigé le Ghana en 1979, puis de 1981 à 2001.
Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que c'est lui qui avait commencé les 4e République. Donc, c'est vrai, on avait déjà la démocratie, mais à un moment, il y avait des ruptures de la démocratie à travers des coups d'État. Mais quand même, à un certain niveau, si on veut faire les analyses de la stabilité du Ghana, on peut dire que c'est vraiment lui qui avait commencé en 1992 avec la démocratie que nous vivons maintenant.
Vous pensez qu'on lui doit la culture démocratique et la stabilité politique au Ghana?
Pas forcément lui, mais seulement, mais il a certainement fait une contribution. Ça, on le doit à beaucoup d'autres personnes, mais c'est vraiment... Il avait, au moment où il avait fait le coup d'État, les gens pensaient que bon, il allait rester en tant que dictateur. Mais il a pu quand même amener la démocratie. Et c'est des choses qui n'étaient pas évidentes à l'époque. Hein.
Des hommages officiels lui ont été rendus lundi et mardi. On a vu des membres du gouvernement se succéder pour lui rendre un dernier hommage. Peut-on dire que les querelles politiques observées à l'annonce de la mort de l'ancien président en pleine période préélectorale ont disparu pour laisser place au recueillement dans l'unité de la classe politique ghanéenne?
En fait, bon, ce n'est pas totalement disparu, mais quand même, tout le monde sait que pendant ces 3 jours qu'on est en train d'observer ces obstacles, il est important de faire attention beaucoup plus à ce qu'il a pu faire pour essayer d'unir les pays, ce qu'il a pu faire pour faire avancer les pays. Donc, c'est ça que, même au niveau politique, les gens sont beaucoup plus en train de focaliser sur ça, plus que les différents.
Madame Levina Adai Mensah, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Directrice exécutive adjointe du WANEP, le West Africa Network for Peace Building à Accra, au Ghana.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Merci de nous rejoindre dans le grand rendez-vous pour parler ce soir de l'avenir de l'opposition ivoirienne après les législatives du 6 mars prochain, alors que cette opposition y va en rang dispersé. Et nous avons 3 invités à Abidjan pour en parler. Honorable Kwaku Okra, qui est vice-président du FPI, le Front Populaire Ivoirien, chargé des questions électorales. Monsieur Kwaku Okra, bonsoir.
Bonsoir.
Et je rappelle que vous êtes du FPI dit légal, donc de Pascal Afingesan. Et nous allons retrouver dans nos studios d'Abidjan M. Soumaïla Bredoumi Kwasi. Monsieur Kwasi, bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire exécutif du PDCI de Henri Konan Bédié, vous êtes chargé du monde rural, Monsieur Kwasi. Et également dans nos studios à Abidjan, Henri Niava, président de l'Union des sociodémocrates USD. Vous êtes également, Monsieur Niava, porte-parole de la coalition de l'opposition qui réunit les 7 partis de l'opposition donc qui ont décidé de ne pas prendre part aux législatives du 6 mars prochain. Monsieur Niava, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Je vais commencer avec vous, Monsieur Kwaku Okra, dans quel état d'esprit votre parti, le FPI, attend-il la décision de la commission électorale en ce qui concerne vos candidats?
Nous attendons avec sérénité, avec confiance. C'est une institution qui a été remise en cause en octobre 2020. Et donc, pour un certain nombre de questions, aujourd'hui, donc, nous avons décidé de prendre part à ces opérations. Donc, c'est de la responsabilité de la commission électorale, donc, de satisfaire les différents partis prenantes au processus électoral. Donc, nous prenons part à ce processus de façon confiante et nous espérons que nos candidats vont être retenus pour une compétition sereine.
Et transparente.
Et transparente, bien sûr.
Monsieur Bredoumi, Monsieur Soumaïla Kwasi, c'est également la confiance, la sérénité pour votre parti, le PDCI?
Oui, madame, je pense que les conditions de participation sont bien édictées. Et notre parti a une longue expérience des questions électorales. Et le tri a été fait avec une commission locale au niveau du parti, qui a pris soin de regarder toutes les conditions, tous les critères avant de déposer les dossiers à la commission électorale indépendante. Et je pense que cela nous revigore. On pense que les dossiers seront à 100% retenus.
Merci. Monsieur Niava, vous faites partie donc de la coalition de l'opposition qui a décidé de ne pas prendre part à ce scrutin. C'est-à-dire, vous avez fait le contraire, le chemin inverse, alors que certains partis de l'opposition majeure qui avaient jusque-là boycotté les élections, cela a pris pendant près d'une décennie. Vous avez décidé cette fois de ne pas y aller. Ces partis qui avaient boycotté, qui boycottaient les élections, y prennent part et vous faites le chemin inverse.
C'est en toute responsabilité que nous avons décidé de faire ce chemin inverse. Parce que avant de s'engager dans de telles opérations, il faut se poser la question et répondre sereinement quels sont les enjeux. Nous sommes sortis d'une élection, d'une parodie d'élection le 31 octobre, après une campagne de désobéissance civile, et nous nous sommes adressés aux populations en leur disant la lutte continue, restons debout. Et nous étions en train de nous réorganiser pour repartir en lutte. Vous vous rappelez que nous avions mis des conditions au dialogue. Vous vous rappelez également que nous avons mis des conditions à notre participation à des élections, à n'importe quelle élection. Et c'est contre toute attente qu'au sein de l'opposition, ce schisme est apparu. Certains qui décident d'aller discuter en oubliant même que nous avons fait des promesses au peuple. Certains qui décident en prolongeant les discussions que eux-mêmes ont reconnues infructueuses, qui vont aux législatives tout en sachant que ces élections sont faussées d'avance.
Mais le FPI, par exemple, de Pascal Afinguessan, a dénoncé aussi cette attitude des partis majeurs. Je fais allusion au PDCI et à EDS. L'accuse aussi de calcul politique, mais il va quand même. Pourquoi vous n'avez pas pris cette option, comme l'a fait le FPI ?
Mais vous savez, nous évitons de faire du civisme. C'est pas parce que le FPI dit légal, y va, que tout le monde doit y aller. Moi qui vous parle, je suis candidat dans une circonscription ivoirienne. Je suis candidat et comme beaucoup de candidats, je me sais avoir beaucoup de chances de l'emporter. Mais nous avons, M. Afi, moi-même et beaucoup d'autres leaders, ensemble conçu les instruments de lutte que nous avons utilisés. La cinétique de cette lutte, mais la motivation de cette lutte était la même. Qu'est-ce qui fait que brusquement nous lâchons le peuple? C'est de ça qu'il s'agit.
Vous considérez que les autres partis qui y vont, c'est-à-dire l'EDS, le FPI et le PDCI, par exemple, lâchent l'opposition, lâchent le peuple ivoirien?
C'est tout à fait ça, puisque on a l'impression que, après avoir fait la promesse au peuple de faire aboutir une lutte qui n'en était qu'à mi-parcours, de faire aboutir cette lutte, avec tous les sacrifices que ce peuple a consentis, on a l'impression qu'on oublie tout cela.
Merci.
Et que, sans crier gare, on change notre fusil d'épaule pour faire autre chose.
Merci, M. Niava. Monsieur Kouassi, est-ce que vous pourriez répondre rapidement au propos de M. Niava qui vous accuse d'avoir lâché le peuple? Parler à ces élections signifie l'abandon de vos engagements vis-à-vis du peuple ivoirien?
Absolument pas. Le PDCI est un parti, l'un des plus vieux partis d'Afrique et le plus vieux en Côte d'Ivoire. Le PDCI a beaucoup plus de représentation au niveau national que tout autre parti, y compris le parti au pouvoir. Et le PDCI est un parti qui apprécie, comme le dit le père fondateur, la politique, c'est l'appréciation des réalités du moment. Nous avons mené la lutte sous notre leadership, le leadership du président Henri Konan Bédié. Nous continuons la lutte. En Côte d'Ivoire, il y a trois pouvoirs qui sont normalement séparés, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif est un contrepoids du pouvoir exécutif. Le PDCI-RDA n'a pas encore officiellement, par la voix de son président, reconnu le pouvoir qui est en place. Donc, la participation aux législatives est une étape supplémentaire de la lutte pour avoir le pouvoir et réconcilier les Ivoiriens. Si nous n'allons pas aux élections, quels sont les instruments que nous aurons pour la lutte? La bagarre se fait avec plusieurs stratégies. Et le président Oufou-Bahin avait trois symboles. L'éléphant, le caïman et le bélier. Le bélier, c'est dit, je recule pour mieux attaquer. Donc, nous sommes à une phase où nous avons reculé pour mieux attaquer. Et avant d'y aller, nous avons consulté les structures de base, qui sont les délégués communaux et départementaux. Nous avons consulté nos représentants. Le PDCI a des députés à l'Assemblée nationale qui finit. Nous avons consulté les femmes et les jeunes. Et c'est de ça que nous avons fait un rapport. Et il est ressorti.
Mais les autres partis vous reprochent de ne les avoir pas consultés et d'avoir décidé de rester dans votre coin, c'est bien ce qu'ils disent, avec EDS, non. Et de ne pas prendre en compte leur point de vue, de ne pas les consulter, alors que vous étiez en bloc et en rang serré pour contester les résultats de la présidentielle.
Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'abord de deux choses. Consulter pour aller, ou consulter pour se mettre en accord sur le choix des candidatures, c'est deux choses. Donc, EDS et nous avons fait un pas supplémentaire de nous consulter pour nous positionner au niveau de chaque circonscription électorale. Ça, c'est différent. Mais la consultation d'y aller est une consultation souveraine de chaque parti politique.
Merci.
Qui vit de lui-même. Chaque parti politique vit de lui-même d'abord avant d'aller en union. Il faut d'abord exister. Et aujourd'hui, en matière de participation, nous avons le plus nombre de représentations dans le législatif actuel que je veux. Et je dis que si nous n'étions pas partis, dans tous les cas, certains militants iraient. Vous allez voir le nombre d'indépendants qu'il y a. Et quels seraient les moyens que nous allons pour avoir la pression? Madame, Nous avons estimé que nous avons environ 161 députés, sièges sur 250 qui nous sont favorables. Si nous les avons, nous avons un instrument politique qui va
justifier... Donc vous espérez vraiment avoir la majorité?
Ah oui, l'ensemble de l'opposition. Et si nous avons cette majorité, nous allons justifier au niveau de national comme international qu'effectivement, nous avons le peuple avec nous et que le pouvoir est un pouvoir minoritaire. C'est l'un des instruments de mesure d'indicateur. Voilà.
Merci beaucoup. On va marquer une pause, messieurs, et on écoutera juste après la réaction de M. Kra.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et bienvenue à ce numéro de Grand Rendez-vous et merci à vous qui nous écoutez sur 91.1 FM à Abidjan où nous retrouvons nos invités, deux de nos trois invités. Il s'agit de Henri Niava, président de l'Union des sociodémocrates et porte-parole du collectif de sept partis politiques qui ont décidé de ne pas participer aux législatives du 6 mars prochain. Bredoumi Kouassi, secrétaire exécutif du PDCI chargé du monde rural, et honorable Kwaku Kra, vice-président du FPI légal, que nous entendrons à présent. Alors, monsieur Kra, pourquoi, malgré vos divergences avec le PDCI, EDS fidèle à Laurent Gbagbo, vous avez tout de même décidé de ne pas boycotter la prochaine législative, comme l'ont fait les sept autres partis politiques de l'opposition,
merci,
bien sûr. Pardon, allez-y.
Contrairement au président Niava, le Front populaire ivoirien en toute responsabilité a décidé de participer à cette échéance parce que c'est une posture de combat. Pendant la présidentielle, nous avons pris la rue, qui était aussi une posture de combat. Aujourd'hui, pour la conquête du Parlement, c'est aussi un autre enjeu et d'autres défis. Et donc, ne pas participer, c'est abandonner la population, contrairement au boycott. Nous avons fait l'expression...
Mais M. Niava vient de dire que même le PDCI qui participe, dont vous aussi, avez trahi presque les populations ivoiriennes.
Non, point du tout, ce n'est pas une trahison, c'est une posture de combat. Depuis 2011, certains sont inscrits dans un boycott, tel que, par exemple, EDF. Aujourd'hui, nous nous réjouissons qu'ils nous rejoignent dans la participation. Les enjeux de la présidentielle ne sont pas les mêmes enjeux que l'élection des députés. Et M. Niava doit comprendre que ce que nous avons fait pendant la présidentielle peut être capitalisé, parce que le combat de rue peut être capitalisé pour le combat dans les institutions. Ce qu'ils ont fait, il y a eu la violence, etc., etc. Il ne faut pas y rééditer. Surtout que au cours du dialogue politique, il y a eu des aménagements en faveur de l'amélioration de la commission électorale pour garantir donc la transparence électorale. Donc, on n'avait pas...
Donc, aujourd'hui, vous n'avez plus... vous avez pleinement confiance en la commission électorale?
Bon, pas totalement, pas à 100%, mais au moins le minimum de garantie est là pour que nous participons à ces élections et pour avoir des résultats, en tout cas, appropriés. Donc, pour nous, il fallait donc inviter le peuple à aller à ces élections, si tant est qu'effectivement, pendant l'élection présidentielle, certaines populations nous ont suivis et qu'ils ont boycotté la présidentielle. Aujourd'hui, c'est de leur dire que c'est un autre combat et qu'il faut constituer un contre-pouvoir.
Merci.
Parce que nous avons fait le point de cette étape et aujourd'hui, il faut donc les amener à nous suivre dans cet élan-là pour contrarier l'exécutif.
Merci. Monsieur Soumaïla Kouassi, vous aussi, vous faites confiance en la commission électorale malgré les reproches qui ont été faits dans le passé?
On ne fait pas totalement confiance. Comme il a dit, Monsieur Kra, il y a des améliorations. Nous allons, à partir du 1er février, avoir des participations de nos représentants aux commissions locales, ce qui n'était pas le cas au présidentiel. Nous avons, au niveau de la commission nationale, un certain nombre de représentants qui vont y aller. Et puis les élections locales ont un enjeu plus différent. Le contrôle est plus restreint. Donc on peut mieux coordonner et éviter certaines fraudes plutôt que les transferts.
Et comment comptez-vous vous y prendre justement pour veiller à la transparence de ce scrutin et même pour cette phase d'examen qui précède la validation de la liste de vos candidats?
Pour la validation de notre candidat, nous avons des représentants à ce niveau là-bas. Nous allons suivre. Au niveau de la transparence locale, nous avons mis une stratégie que nous n'allons pas dévoiler ici parce qu'il s'agit d'une stratégie. parce que nous avons suffisamment d'expérience de ce manque de transparence. Mais je voudrais dire, madame, que le contexte actuel est favorable à l'opposition pour gagner les élections locales. Parce que la cherté de la vie qui est là, le résultat du boycott et la désobéissance civile, et l'environnement de la pauvreté qui s'installe avec le problème d'achat de nos produits agricoles. Je viens du milieu rural avant-hier. Je pense que le RHDP est en perte de vitesse. C'est l'occasion de transformer notre mécontentement et notre désobéissance civile en sanction du RHDP.
Et dont sanction, les députés donc, vous espérez un vote sanction du peuple ivoirien.
Un vote sanction parce que les députés RHDP ont refusé même que l'État prenne en charge les cartes d'identité des paysans qui sont pauvres. Donc, ce sont des arguments qui nous permettent d'avoir. Et si, madame, vous imaginez, si cela se traduit effectivement en résultat positif pour l'ensemble de l'opposition, ceux-mêmes qui ne sont pas partis seront les premiers bénéficiaires parce que nous allons restructurer un certain nombre de dispositions légales et réglementaires qui vont leur permettre, eux, de participer à deux élections dans la sérénité.
Donc, pour vous, vous êtes confiant que même si les autres partis n'y participent pas, l'opposition devrait sortir de cette élection plus soudée et plus offensive face au pouvoir?
Madame, l'opposition dans sa majorité sociologique va participer. Quand vous prenez le FPI, les gars, le FPI, EDS, quand vous prenez le PDCI, vous prenez un certain nombre d'indépendants de partis qui n'y vont pas, nous allons retrouver au moins 90% de ceux qui devraient réellement aller.
Merci.
Et quand vous regardez bien la cartographie politique du pays depuis 1990, où on a eu ces partis qui participent, regroupés ou non, représentent la majorité des partis qui ont toujours animé la scène politique en Côte d'Ivoire.
Merci, M. Kouassi. Alors, M. Niava, vous écoutez, les deux partis, les représentants des deux partis qui vont à cette élection législative sont très optimistes par rapport à leur score. Ils sont aussi confiants. Ils ont aussi confiance en la commission électorale, même s'il y a quelques réserves. Mais vous continuez à dire que l'élection est jouée d'avance et qu'il n'y aura pas de miracle à ce scrutin pour l'opposition. Qu'est-ce qui vous rend si méfiant?
Je ne suis pas méfiant, je suis totalement lucide et je suis serein parce que toutes les critiques que nos sept partis et bien d'autres qui ne se sont pas exprimés au niveau où nous l'avons fait pensent comme nous et je dois même avouer que j'ai été surpris d'entendre ceux qui ont participé aux discussions revenir de ces discussions en disant que le résultat de ces discussions était maigre et que malgré le fait qu'ils n'aient pratiquement obtenu aucune amélioration, ils y vont quand même. Quand on nous dit qu'il y a eu des améliorations au niveau de la commission électorale, ça fait sourire. Vous savez très bien que tout ce qui a été obtenu au niveau de la commission électorale, ce sont des aménagements de nature cosmétique. Ce ne sont pas des aménagements en profondeur. Le combat que M. Kra, M. Afi, moi-même, le président Bédier et tous les autres nous avons mené ensemble, ce n'était pas pour obtenir des mesurettes, des mesures cosmétiques, c'était pour un changement en profondeur. Et la Cour africaine.
Mais leur stratégie aujourd'hui, d'après ce que les deux autres invités expliquent, c'est de pouvoir conquérir
oui,
la majorité parlementaire et de pouvoir
alors,
changer.
Oui, alors ils ont un optimisme que je trouve totalement gratuit.
Exagéré.
Parce que quand on a des données qui démontrent que depuis que le pouvoir du RHDP est installé en Côte d'Ivoire, toutes les élections ont été truquées, faussées. Quand on a vu ce qui s'est passé le 31 octobre, au moment où devait se faire l'élection présidentielle qui n'a pas eu lieu, avec moins de 10%, quelqu'un se proclame vainqueur d'une élection. Quand on a vu ce qui s'est passé au municipal, moi je veux bien afficher de l'optimisme, mais je veux être sérieux également vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de mes électeurs.
Merci.
Voilà.
Merci beaucoup. On comprend que vous ne faites pas confiance au processus et à la commission électorale. Je vais revenir à vous rapidement, Monsieur Kra. Dans votre stratégie, il y a eu une alliance FPI avec trois autres partis, dont le COGEP ou encore l'UDPCI. Est-ce que ces partis ont quitté la coalition de Monsieur Niava? Parce que ces partis, jusque-là, semblaient dire qu'eux aussi ne prendront pas part à ce scrutin.
Mais les alliances sont des alliances de circonstances. Pour le boycott de la présidentielle, nous étions dans une coalition. Et nous avions rêvé continuer cette coalition pour la conquête du Parlement. Malheureusement, nous sommes arrivés à un stade où cette coalition se résumait seulement en deux organisations, EDF et PDCI. Dès lors où PDCI, qui est le leader, ne considérait plus notre présence dans cette coalition, nous n'avons plus de raison d'être dans cette coalition. Nous nous sommes donc réorganisés et nous nous sommes retrouvés avec UDPCI, qui est dans une plateforme qu'on appelle Arc-en-Ciel, le parti de Aïko Martial qui s'appelle AGI,
le COGEP AGI
et le COGEP qu'on appelle la voix du peuple. Et donc
vous espérez, avec cette alliance, qu'est-ce que vous espérez? Parce que vous deviez au départ présenter juste une soixantaine de listes. Aujourd'hui, vous en êtes à une centaine avec la coalition. Quels sont vos espoirs?
Nos espoirs, c'est que par rapport à ce que nous avons présenté, puisque nous avons un programme cohérent et conséquent, faire en sorte que la population nous fasse confiance et permette d'élire la majorité des listes que nous avons présentées, afin que nous puissions garantir leurs intérêts à l'Assemblée nationale.
Et si votre liste passe finalement, une fois à l'Assemblée nationale, vous vous positionnerez comment? Du côté de l'opposition, c'est-à-dire PDCI-ODS, ou du côté du RHDP?
Tout dépendra de l'attitude de nos partenaires PDCI-ODS. S'ils considèrent que nous devons être bien organisés pour contre-attaquer le pouvoir ou le parti au pouvoir, nous avons donc de bonnes raisons d'être ensemble.
Merci.
Et pour le moment, c'est une coalition pour la conquête des sièges. Et quand nous serons à l'Assemblée nationale, je pense qu'il y aura une autre organisation pour être efficace.
Merci. Monsieur Soumaïla Kouassi, le choix de la constitution de vos listes, même avec vos alliés du EDS, n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de frictions. On se souvient du cas de Diédé Madi. Alphonse?
Oui, mais je pense que dans un travail aussi colossal et une alliance qui est quand même assez jeune, il ne faut pas regarder seulement ce qui n'a pas marché, il faut regarder ce qui a marché.
Mais le fait d'avoir réduit et d'avoir mis à l'écart d'autres formations politiques qui vous le reprochent aujourd'hui n'a pas non plus facilité la tâche pour vous, semble-t-il.
C'est vrai que l'idéal aurait été que toute l'opposition qui va soit repartie les circonscriptions. Mais vous savez qu'il y a des partis politiques qui n'ont pas participé à des élections il y a 10 ans, qui ont donc un bilan qui date de 10 ans. Certains partis aussi ont participé et ils ont un bilan. Et ils pensent que ce bilan peut être étendu. Donc, avec ces trois facteurs, ça a été difficile. Mais c'est sur environ, en ce qui concerne le EDS et nous, c'est environ une vingtaine de circonscriptions où il y a eu quelques difficultés, dont le plus emblématique. Mais je pense que les discussions continuent. Et pour ce qui est des deux têtes dont vous voulez parler, nous espérons qu'avant même la publication et les choses, des accords vont être trouvés très rapidement parce que les discussions se font à un très haut niveau.
Alphonse Didier Madi, qui a finalement été investi par le PDCI en lieu et place d'un candidat de l'EDS.
Nous, au PDCI-RDA, nous préférons des discussions souterraines à un haut niveau plutôt que d'exposer ces problèmes sensibles au niveau chômage. Je pense
on lave le linge dans la maison.
Vont être trouvés.
Merci.
Mais ce que je voulais dire, que le PDCI et EDS ne sont pas en train de trahir le peuple, c'est des partis qui sont sérieux. Ce n'est pas des partis qui ne sont pas sérieux, c'est des partis qui sont sérieux, qui ont l'expérience du terrain et nous ne pouvons pas trahir le peuple. Nous continuons le combat avec le peuple.
Merci beaucoup, Monsieur Soumaïla Bredoumi Kouassi. On va marquer une dernière pause, messieurs, et on se retrouve dans un instant.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Quel avenir pour l'opposition en Côte d'Ivoire après les législatives du 6 mars prochain? Nous en débattons ce soir avec trois invités. M. Soumaïla Bredoumi Kouassi, secrétaire exécutif du PDCI chargé du monde rural. Honorable Kwaku Kra, vice-président du FPI légal. Et Henri Niava, président de l'Union des sociodémocrates et porte-parole de cette partie politique qui ont décidé de boycotter les élections législatives prochaines en Côte d'Ivoire. Monsieur Niava, vous m'entendez?
Je vous entends.
Voilà, M. Niava qui est dans nos studios d'Abidjan. Alors, je parlais tout à l'heure de la stratégie du FPI qui consiste à recruter d'autres partis alliés. J'ai parlé du COGEP et aussi de Agir ou encore de l'UDPCI. Est-ce que finalement, vous n'avez pas l'impression que vous êtes de moins en moins populaire, le boycott ne fait pas beaucoup, c'est-à-dire le boycott semble s'effriter?
Alors, je vous rassure, quand nous avons décidé de mettre des conditions claires à toute participation à des élections, quand nous avons décidé ensemble de mettre des conditions claires et objectives à toute discussion avec le gouvernement, nous étions tous ensemble. Et ensemble,
mais je disais le camp du boycott. Oui, mais le camp du boycott s'effrite.
Et aujourd'hui,
parce qu'il y a trois autres qui ont décidé quand même d'aller et s'associer au FPI.
Je vous informe que les trois dont vous parlez ne faisaient pas partie. Je vous avais dit que nous, sept, on s'était exprimés, qu'il y en avait qui ne s'étaient pas exprimés. Mais les sept sont toujours sept. Voilà.
Mais le COGEP avait manifesté sa prudence par rapport aux élections. C'est vrai qu'on ne connaissait pas très bien quelle était la position de l'UDPCI, mais est-ce qu'aujourd'hui vous ne vous rendez pas compte que l'idée du boycott ne fait plus vraiment recette?
Ce n'est pas ça qu'il faut regarder. C'est la justesse d'une position. Parce que j'ai envie de vous faire remarquer que nos deux invités tout à l'heure, mes confrères, mes amis qui ont pris la parole, invités comme moi, ont fait ressortir un fait très important, c'est que le pouvoir s'est appuyé sur les contradictions internes qui allaient nécessairement apparaître et a joué là-dessus en donnant un délai très court à tous ces partis de l'opposition pour s'organiser alors qu'eux, ils sont prêts depuis 2 ans. Il y avait ça aussi à voir. Et je ne crois pas que ces partis-là, en revenant des législatives, malgré leur optimisme, et je ne leur souhaite pas de perdre, mais je constate avec beaucoup d'objectivité et de sérénité que les conditions, d'abord l'adversaire n'a pas changé, et il ne changera pas de méthode. Le président de la commission électorale est toujours le même. Les structures internes, l'esprit à l'intérieur de cette commission reste les mêmes.
Donc vous pariez sur une défaite de l'opposition le 6 mars prochain?
L'opposition va revenir déçue.
D'accord. Et dans ce cas, quel sera l'avenir de cette opposition selon vous? Et si l'opposition sort victorieuse ou perdante de cette élection, comment voyez-vous, votre avenir aussi avec cette opposition qui serait allé aux élections?
Notre idée là-dessus est claire. Lors de notre dernière conférence de presse le 13 janvier dernier, nous avons insisté sur le fait que notre action est plutôt une action d'interpellation de nos frères et amis de l'opposition. Nous les interpellions pour qu'ils se ressaisissent, de sorte que nous puissions nous asseoir et à l'occasion d'un aggiornamento, faire tout ce qui est possible en notre pouvoir pour relancer la cohésion de cette opposition.
Pardon de vous interrompre, M. Niava. Il nous reste 3 minutes pour donner aussi la parole aux autres. Est-ce que vous pouvez répondre directement à ma question? Est-ce que vous retournerez travailler avec ces opposants qui seraient allés, ou ces partis qui seraient allés aux élections ou pas, quelle que soit l'issue de celle-ci?
Nous restons dans l'opposition, même quand nos avis ne coïncident pas, sont divergents. Nous sommes dans l'opposition.
Merci.
Et il faudra qu'un moment, on s'asseye pour parler.
Merci beaucoup. Et vous, monsieur Kouassi, comment voyez-vous l'avenir de l'opposition après le scrutin de mars prochain?
L'avenir de l'opposition ne dépend pas seulement que des prochaines élections. C'est un combat de longue haleine. Nous nous mesurons que ce combat va être long, difficile, mais à chaque étape constitue une stratégie particulière. Et si nous avons la chance, que je pense, d'être ensemble, majorité à l'Assemblée, vous allez voir qu'un certain nombre de changements vont apparaître et le combat va reprendre encore avec plus de rigueur,
avec,
de rudité.
Avec les partis que vous avez délaissés
avec
pour les législatives.
Avec tous les partis, parce qu'en fait, c'est le peuple qui compte. Et si le peuple nous donne la majorité, c'est que le peuple est avec nous.
Merci.
Le peuple sait qu'il va y avoir des tricheries et nous allons reprendre le combat parce que nous aurons eu non seulement l'appui pour la désobéissance, mais nous aurons aussi l'appui pour les législatives et la communauté internationale qui a pris acte, quoi qu'on le dise, hein, de l'élection, même si ce n'est pas à nous, nous critiquons.
Merci.
Aujourd'hui, on a vu la reconnaissance. Donc, la communauté internationale va se reconsidérer sa position et nous soutenir par les prochains combats que nous allons mener.
Merci. Monsieur Krant, en deux mots, s'il vous plaît, vous, est-ce que vous pensez que l'opposition sortira plus divisée encore de ces élections ou plutôt plus renforcée?
Bien, merci, madame. Ce qu'il faut noter, c'est que la politique de la chaise vide ne paye pas. Et nous sommes donc engagés à ne plus faire la politique de la chaise vide. Et nous allons tirer donc les enseignements de notre participation ensemble ou désunis. Et à la fin, quel que soit le résultat, nous allons donc nous remobiliser, tirant donc profit de toute l'expérience que nous avons acquise durant ce processus pour faire en sorte que l'opposition se retrouve de façon efficace. De
oui,
façon
mais est-ce que vous allez retourner travailler avec les autres partis que vous accusez de calcul pour les législatives? Est-ce que vous allez, par exemple, retourner au sein de la coalition d'opposition pour travailler à la fois avec EDS et le PDCI? Quand je vous ai posé la question de savoir pour qui, dans quel camp vous allez vous situer, si vous avez des députés à l'Assemblée nationale, vous avez conditionné votre réponse. Mais une fois cette élection passée, est-ce que vous allez retourner dans la famille politique de l'opposition ou pas?
Mais nous sommes déjà dans la famille politique de l'opposition. Nous y sommes. Et à l'Assemblée, nous serons dans la famille politique de l'opposition. Tout dépendra de l'organisation. Mais nous n'allons pas pour être des wagons de quelques organisations que ce soit.
Merci
nous
beaucoup.
Nous resterons nous-mêmes et tous ceux qui le voudront, nous serons ensemble.
Merci beaucoup, honorable Kwaku Kra, vice-président du FPI Légal, le Front Populaire Ivoirien, chargé des questions électorales. Merci à Soumaïla Bredoumi Kwasi, secrétaire exécutif du PDCI, chargé du monde rural. Vous étiez dans nos studios à Abidjan, de même que Henri Niava, président de l'Union des sociodémocrates USD et porte-parole de cette partie qui ne participe pas aux élections législatives prochaines en Côte d'Ivoire. C'était le débat du jour sur l'avenir de l'opposition ivoirienne après les législatives. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute des programmes de Africa Radio. Bonsoir.